Bonjour à toutes et tous, heureux de vous retrouver sur la cinquième corde, à mi-chemin de notre petite odyssée dans la musique bluegrass. Simon Martin aux manettes, Robert Giroux votre hôte et Bill Emerson qui nous fait la joie de jouer notre indicatif. Nous prenons aujourd'hui le chemin des années 70, décennie affairée aux changements de toute nature. Le bluegrass étant tout sauf une mode, les grands événements musicaux de l'époque, festivals géants et autres, oublieront soigneusement cette musique pour fait de ruralité et de provincialisme aggravé. Elle y gagnera l'essentiel, soit la liberté d'évoluer sans impératif marchand et sans obligation formelle, et de convaincre par le réel, à savoir la musique, et non par un accoutrement ou une interprétation frelatée. Cependant, changement il y aura bel et bien, ouverture à de nouvelles façons, avancée dans le jeu, affinement du chant, nouvelles écritures, nouveaux modes de narration, en résumé, l'irruption du XXe siècle dans une forme artistique encore imprégnée des XVIIIe et XIXe siècles. Il ne s'agit en aucun cas d'une révolution ici, mais d'évolution. Maître mot du bluegrass, ne rien rendre caduc, mais bâtir encore, solidifier et justifier plus avant. Ce sont par ailleurs 10 années qui verront l'arrivée massive de jeunes musiciens citadins dans cette musique qui restait rurale jusqu'alors. Changement en douceur, tant les jeunes gens montreront de respect pour les anciens et de considération pour leur œuvre. Le rapport de filiation jouant, comme pour le blues, un rôle premier, le conflit des générations prospérant partout ailleurs à l'époque, connaîtra dans cette musique un échec splendide. Pour aborder cette période, deux groupes qui seront quasiment l'ombre portée l'un de l'autre, presque indistincts, l'autre comme une mue de l'un. D'abord vint The Country Gentleman, quartet au son direct, tranchant, hautement énergique instrumentalement et soyeux, plein, maîtrisé vocalement. Ils étaient emmenés par le guitariste et vocaliste solo Charlie Waller, au timbre très particulier, très doux, chaud et vibrant, dans lequel on retrouvait la suavité d'un Hank Snow et la gravité d'un Carter Stanley. Tom Gray était à la contrebasse, John Duffy à la mandoline et au chant, Eddie Adcock au banjo. Écoutons-les dans The Matterhorn.
August morn, there was just the four of us against the Matterhorn. There was Albert the Australian and John the Irishman, me and Bill from Britain, mad dogs in the sun. John and the rations fell below. Al and Bill are lying beneath an avalanche of snow. Now here I am all alone and I know I cannot stop. Two more yards in front of me before I reach the top. Would surely knight me if I could get back down, but it's closer here to heaven than it is back to the ground.
« Durant ses premières années d'existence, le groupe, à la configuration encore incertaine, se montrera assez traditionnel dans son esthétique, produisant un bluegrass d'école, évoquant principalement les Stanley Brothers. Néanmoins, leurs voix feront la différence. Le timbre unique de Charlie Waller et le ténor de John DeFay, d'une puissance et d'une efficacité inouïes, seront leurs armes de choix pour sortir du lot. À cette personnalité de leur timbre de voix, ils auront l'extrême intelligence d'adjoindre une ligne éditoriale exigeante concernant le choix de leurs chansons. Aucun d'entre eux n'étant auteur, ils se montreront doublement pertinents, judicieux, dans l'établissement de leur répertoire, puisant soit dans le vaste fond historique de la chanson traditionnelle américaine la plus antique, soit dans une manière contemporaine, établissant au passage des passerelles plus qu'intéressantes entre des formes d'écriture parfois distantes de deux siècles. Aucun hasard fut-il heureux dans leur démarche, juste une intelligence totale, une implication entière dans ce qu'ils étaient et la volonté de signifier, de s'adresser à l'esprit autant qu'au sens. Dans une prochaine émission traitant des thèmes du bluegrass, je reviendrai en détail et par l'exemple sur cet aspect plus littéraire des choses, car le bluegrass est aussi un phénomène d'écriture, une somme de traditions narratives. On n'y fait pas l'économie du texte. Et voir dans cette musique la seule occasion de taper du pied en s'amusant sur des instruments et des textes primitifs et faire une erreur totale. Curieux de la chanson folk et de son renouveau à la suite de Bob Dylan et consorts, ils en tentèrent une lecture bluegrass, éclairant cette musique de teintes différentes, la plaçant hors mode, hors l'époque, et plaçant le bluegrass dans des perspectives neuves pour lui. Le public les suivit, voyant les chansons qu'il aimait devenir part d'une nouvelle tradition. S'ensuivit une décennie d'une réforme conduite en douceur et avec grande intelligence. Il s'agissait d'inoculer tout un vocabulaire nouveau à une forme d'art prenant sa source au XIXe siècle quant à la musique et au XVIIIe siècle quant au texte. C'est en traitant tout avec recul et avec son détachement naturel. Au passage, Charlie Waller était presque un crooner country, un homme de pleine maturité et non un jeune homme en colère. Et de sa personne émanait une certaine grandeur, de la retenue, de la maîtrise. C'est donc en prenant tout avec cette distance qu'il parviendra sans effort, naturellement, à faire articuler par le chanteur bluegrass toute une littérature qui lui était complètement étrangère. C'est un point à ne pas sous-estimer. Ce groupe, pour novateur qu'il fût, instrumentalement et vocalement, il a par exemple fait grandement progresser ce qu'on pourrait appeler le chant choral en bluegrass. Ce groupe eut donc l'immense mérite de replacer le texte au centre des préoccupations et ainsi d'empêcher qu'il ne se fige et donc se condamne à être normalisé à terme. À mourir donc. Après quelques années de stabilité quant à son effectif, le groupe connaîtra maints changements dans ses dernières années et selon la tradition du genre, il sera à l'origine de beaucoup de brillantes carrières, faute d'un terme plus approprié et moins sinistre peut-être. Charlie Waller n'est plus de ce monde aujourd'hui. Son fils Randy en perpétue la mémoire, chantant la musique qu'aimait son père et accusant une ressemblance certaine avec lui quant au timbre de voix. Des rencontres musicales avec les anciens country gentlemen ont lieu parfois, avec grand succès tant le groupe a su parler au cœur du public américain et investir la mémoire collective. Écoutons-les encore dans « This World's No Place to Live », occasion de nous rappeler à quel point la voix de John DeFay, le mandoliniste, pouvait être aussi belle et sensible que le personnage était extravagant.
In the cool and silent dawn, Lord, I travel here alone, and the wind sends back an echo of my cries. For I've seen the quiet dead, and I've heard the living moan. This world's no place. A song I seem to hear, it comes a-winging to my ear, 100 million
fears of so many thousand years.
This world's no place to live in, but it's home.
Change this world in a lighter, brighter way. But alas, they hope in vain, for it all remains unchanged.
This world's no place to live in, but it's home. Yet the time of death is long, the grave lies icy cold. Man's last and longest sleep when life is done.
So I linger yet a while, give up love a song, a smile.
This world.
Ce groupe a donc eu par ailleurs la particularité d'être lié directement à un autre, The Seldom Scene. En effet, John Duffy, génie étincelant autant qu'imprévisible, et Tom Gray, le bassiste, mettront sur pied cette formation dès leur départ des Country Gentlemen. S'y joindront Michael Ridge au dobro, Ben Eldridge au banjo et l'extraordinaire John Starling, guitare et voix. Les vocaux de ce groupe furent un sommet du genre, veloutés un instant, puis triste presque jusqu'au macabre, et clair, vif et étincelant comme un torrent l'instant d'après. Leur répertoire prenait en compte tout ce que la chanson américaine moderne montrait de consistant ou prometteur. Steve Goodman, Rodney Crowell, John Prine côtoyaient Bill Monroe sans que personne n'y trouve à redire. Après eux, les musiciens n'ont plus eu de rétention et ont enregistré ce qu'ils voulaient, avec les bonnes clés pour faire un bluegrass moderne, et non travestir en modernisme une incapacité à grandir. Leurs héritiers seront sans nombre, qu'ils en aient ou non conscience. Écoutons donc le Seldom Scene dans Old Train.
Old Train, I can hear you whistle below, and I won't be jumping on again. Old train, I've been everywhere you go, and I know what lies beyond each bend. Old train, each time you pass, you're older than the last, and it seems I'm too old for running. I hear your rusty wheels grate against the rails, they cry with every mile. I think I'll stay a while. Old train, each time you pass, you're older than the last, and it seems I'm too old for running. I hear your rusty wheels grate against the rails, they cry with every mile. I think I'll stay a while. Old train, I grow weary at the miles, and I'll miss the freedom that was mine. Old train, just to think about those times, I'll smile when you're high-balling by. Old train, each time you pass, you're older than the last, and it seems I'm too old for running. I hear your rusty wheels grate against the rails, they cry with every mile. I think I'll stay a while.
parallèlement à cette évolution, une autre instrumentale cette fois se dessinait. Les choses n'en étaient qu'au stade embryonnaire, mais il était clair que les instrumentistes changeaient progressivement propos et manières. Les passages solistes s'allongeaient quelque peu et leur contenu illustrait souvent l'ouverture du musicien à des formes neuves. Tout ceci se passait encore au sein du groupe, mais il devenait clair que des instruments comme le banjo et la guitare possédaient une sorte de prédestination soliste. La décennie suivante éclairerait tout cela, mais cette période se montrait passionnante. Comme souvent, ce qui provoque une chose est plus intéressant que la chose elle-même. Le banjo avait toujours eu de fortes individualités. Rappelons que cet instrument n'est pas l'idéal pour qui doit faire profil bas, tant sa sonorité sait s'imposer. En conséquence, un banjoïste simplement décent se devra au minimum d'être irréprochable quant à sa technique. Et plus il brillera, plus le groupe entier brillera. Citons Eddie Adcock, musicien et homme d'exception, vraie grande personnalité, le géant Don Reno, tous deux innovateurs et sans barrière, Jimmy Arnold, moins connu, mais dont chaque phrase débordait de trouvailles, l'extraordinaire Pat Cloud, enregistrant le premier avec un trio piano-basse-batterie et sur lequel je reviendrai plus tard, Butch Robbins, grand maître néo-traditionnaliste, mais qui électrifiera le premier son banjo, lui fera subir pédale de distorsion, voire wah-wah ou que sais-je encore, et fera parler conséquemment sa fibre exploratrice. L'encore jeune Tony Trischka, avec son groupe Country Cooking, semblant œuvrer pour une certaine émancipation de son instrument, et que nous retrouverons dans les épisodes suivants. Techniquement, l'évolution du banjo fut surtout liée à l'avancée d'une manière nouvelle, appelée « melodic style », due pour l'essentiel à Bill Keith, transfuge des Bluegrass Boys de Bill Monroe. Avec lui, les solos de banjo ne seront plus exclusivement des moments d'explosion du taux d'adrénaline. Il sera question de mélodie avant tout, de longues lignes chantantes, très articulées, jouées en notes seules ou harmonisées, plus de courtes phrases de soutien, de relance ou de raccord. La notion même du riff est exclue. Mais laissons plutôt Bill Keith défendre lui-même son dossier, prévenu à la barre. Nola, Bill Keith. Thank you. La guitare connut sous l'impulsion de Doc Watson une évolution importante. Non-voyant depuis ses premières années, il manifestait un talent musical évident. Suprêmement à l'aise à la guitare, au banjo et de façon générale tout ce qui portait des cordes, il était aussi un chanteur très convaincant, jouant d'abord dans le contexte local et familial de la musique old-time et du rockabilly. Nous devons sa découverte à Ralph Rinsler, musicologue et mandoliniste éminent, qui l'enregistra le premier lors de séances d'enregistrement de terrain pour le Smithsonian Institute, la bibliothèque du Congrès donc. Son répertoire allait du bluegrass à la chanson folk et old-time, du blues et du spiritual à un swing léger, presque relâché. Son apport au style et à son instrument de prédilection fut considérable. Écoutons-le avec son fils Merle Watson, grand styliste lui aussi, dans Honey Baby Blues.
She's left on that early morning train. I'll never see my good gal again. Oh, me, and it's oh, Lordy, my. And she's left on that early morning train. Troubles are like mine. When you ain't got a nickel nor a dime. Oh, me, and it's so Lordy mine. And I ain't got no honey baby now. Well, it's good girl, you ain't no girl of mine. Cause my good gal, she's rambling down the line. Oh, me.
Norman Blake, autre guitariste majeur, naît en 1938 dans le Tennessee, puis s'installera en Géorgie, à Sulphur Springs. Lassé de l'école à 16 ans, il s'en va jouer de la mandoline avec les jeunes Dixie Drifters, puis ce seront les Lonesome Travelers en 1958, puis 3 ans d'ingénieur radio sur le canal de Panama, histoire de ne pas se fâcher avec l'oncle Sam. À son retour du service, il apprend la guitare. Il se rend souvent à Nashville, où il travaille comme session man en studio. Il est engagé par June Carter et accompagne à la scène et au disque la Carter Family. Il joue avec Johnny Cash, Bob Dylan, Kris Kristofferson, John Baez, Jackson Browne, Randy Newman, entre mille autres. Norman Blake pratique une forme d'art très épurée, presque un art premier, jouant et chantant seul la plupart du temps. Sa grande proximité avec la Carter Family a pu influencer l'équilibre voix-guitare de sa musique. C'est une guitare qui chante plus qu'elle ne bat, qui produit une contrepartie mélodique de la voix chantée, voix fine, fragile presque, plus la voix d'un chanteur folk que d'un chanteur bluegrass. C'est un art du dépouillement, de la simplicité, qui révèle en fait une complexité et un raffinement profond. Blake est sans conteste un maître musicien. Écoutons-le dans Old Grey Mare, un classique de la chanson traditionnelle américaine.
Once I had an old gray mare, once I had an old gray mare, once I had an old gray mare, she could not see and she couldn't hear. Took her down in the field to plow, that damned old fool, she didn't know how. I got down on my knees to pray, Lord, I got down on my knees to pray. I got down on my knees to pray and I scared that damned old fool away. I jumped up and followed the track, Lord, I jumped up and followed the track. I jumped up and followed the track and I found her in a mud hole flat on her back. Once I had an old gray mare, once I had an old gray mare, once I had an old gray mare, she could not see and she couldn't hear.
Rendez-vous le mois prochain, nous traiterons de la place des femmes dans cette musique. Mon amical salut à tous ceux qui nous font la grâce de nous écouter et de nous suivre, avec tous mes vœux pour chacun d'entre vous.